Bonjour à toutes et à tous et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute du débat politique de Radio Ndeke Luka Patara. Vous êtes dans les 16 préfectures de la République centrafricaine, vous êtes de la diaspora, soyez donc les bienvenus dans ce débat, le tout premier de l'après-confinement dû à la pandémie de coronavirus. Eh bien, nous allons parler de la reprise des activités académiques après 3 mois de suspension due à la pandémie de Covid-19. En effet, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Aboubakar Moukadas Nour a annoncé que des dispositions ont été prises pour assurer la reprise d'une manière progressive des cours depuis le 15 juillet dernier. Et cela concerne les écoles des préfectures du Mbomou, du Mbomou, de la Basse-Koto, de la Waka, de la Haute-Koto, de la Kémo, de la Nagribizi, de l'Ouam, de l'Ouampende, du Bamingui-Bangouran et de la Wakaga. Les inspections d'académie du centre-sud, à savoir la Lobaï, l'Ombilapoko, celle de l'Ouam qui concerne les préfectures de la Mambré-Kadéi et de la Sangambaïri ainsi que Bangui, la capitale, démarre les cours mercredi 29 juillet prochain. Question, est-ce que tous les dispositifs sanitaires sont pris pour espérer la réussite de cette reprise? Est-ce que le calendrier de la rouverture des classes et de l'organisation des examens va tenir compte de l'évolution de Covid-19? Pourquoi le gouvernement a privilégié la reprise dans les églises avant celle des activités pédagogiques? Est-ce que les élèves des classes d'examen auront des kits de protection? Les enseignants seront-ils dépistés, comme a dit le ministre? Voilà tant d'interrogations qui seront décortiquées dans ce débat Patara. Pour en débattre, je reçois Dr Ernest Mada, directeur de cabinet au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Monsieur Mada, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Monsieur Farid Ayourouka Chabaz, porte-parole du Chemin de l'Espérance, parti politique de l'opposition et évidemment de l'ancien président de l'Assemblée, Abdou Karim Mekassoua. Monsieur Chabaz, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Ndeke Luka.
Merci. Monsieur Alain Loumandé, vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de Centrafrique. Monsieur Loumandé, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les parents et à tous les élèves et étudiants de Centrafrique.
Monsieur Zenette Ndewa, secrétaire général du groupement des établissements d'enseignement privé de Centrafrique. Monsieur Ndewa, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, et Paul Cressan Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Merci d'être venu. Monsieur Beninga, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Au centre de ce débat, merci. Je suis Armand Nguindi. Je bénéficie de l'appui technique de Herman Ambouna et de toute l'équipe de Patara. Nous ouvrons le débat Patara.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, comme annoncé, ouvrons ce débat avec vous, monsieur docteur Ernest Mada. Voilà, il faut corriger parce que j'ai mis docteur devant. Les cours ont-ils réellement commencé le 15 juillet dans la zone pédagogique A, comme l'a annoncé le ministre Aboubakar Moukadas Nour?
Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez à nouveau sur Radio Ndeke Luka, parler de la réouverture des activités pédagogiques. Les enseignements ont été, comme nous le savons tous, influencés par l'évolution de la pandémie. Une pandémie qui, on le sait, de par sa virulence, a réduit les clivages, comme le disait le président de la République dans son adresse à la nation du mois de juin dernier, a réduit les clivages entre pays du monde. Le coronavirus n'a affecté personne. Les pays pauvres comme les pays riches. Les pays nantis comme les pays les moins nantis. La veille scientifique nous renseigne. Cela représente pour certaines tranches d'âge. Nous savons aujourd'hui quels sont les facteurs à risque de cette maladie, qui inclut l'âge, l'obésité, l'hypertension artérielle, pour ne citer que ça. Nous savons également que notre pays aujourd'hui a eu à effectuer plus de environ 30 000 tests, dont environ 4 600 cas positifs.
Dans les 30 000 tests, vous parlez des élèves y compris.
Bien entendu. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces lignes saillantes, avec votre permission, tout au long de cette émission, pour donner plus de détails à nos auditeurs. Le ministre de l'Éducation nationale a pris un arrêté portant réouverture des salles de classe. Et pour répondre à la question que vous posez, le système éducatif a été, de par la distribution spatiale des cas de la pandémie, au travers des différentes communes de notre pays, subdivisé en deux parties. Une première subdivision, en l'occurrence la zone d'observation pédagogique à laquelle vous faisiez allusion, a repris effectivement les enseignements, les activités d'apprentissage dans les préfectures concernées. Le ministre de l'Éducation nationale a eu, avec son collègue de l'enseignement technique et de l'alphabétisation, a procédé à une ouverture solennelle des activités pédagogiques à partir de la ville de Sibut, qui se trouve dans l'inspection d'académie du centre.
Et ça, c'est le lancement officiel.
Et c'était un lancement effectif des activités pédagogiques. Vous pourriez vous rendre dans l'inspection d'académie du centre et dans les autres inspections d'académie situées dans la zone d'observation pédagogique A pour évaluer avec nous l'effectivité de cette reprise. Et cette reprise ne concernait pas l'ensemble des ordres d'enseignement. Il faut préciser que il s'agissait d'une reprise qui concernait le préscolaire, le fondamental 1, la classe de 3e et la classe de terminale. Donc pour ainsi dire, essentiellement les classes d'examen les classes d'examen étendues à l'ensemble du fondamental 1 et du préscolaire. Et c'est un mois plus tard que les autres sections, c'est-à-dire les classes de 6e jusqu'à la 4e, plus les classes de seconde et les classes de première, compléteront les effectifs pour que la reprise puisse être totale. Le même scénario pour ce qui concerne la zone B, qui est constituée de l'inspection d'académie de Bangui, de l'inspection d'académie du centre au sud et de l'inspection d'académie de...
Oui, merci, merci le directeur de cabinet. Voilà. On va y revenir parce que c'est ce qu'on a déjà même évoqué dans l'introduction de cette émission. Mais je reste avec vous. Est-ce que dans la zone pédagogique A, comme nous avons cité plus de 10 préfectures, est-ce que les cours ont repris pour les classes d'examen, comme vous l'avez cité, du CM2, ceux de 3e et de terminale?
Oui, les cours ont effectivement repris avec des mesures de protection contre la pandémie, conformément au protocole sanitaire qui était contenu dans l'arrêté pris par les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de l'enseignement technique et de l'alphabétisation.
Oui, de votre côté, en tant que parent d'élève, même si vous êtes à Bangui, mais quand même vous avez des informations à l'intérieur du pays, est-ce que les cours ont effectivement repris après cette pandémie que le pays a connue?
Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour la reprise de vos émissions. Et pour nous, les parents, nous sommes satisfaits parce que nous étions inquiets pour nos enfants. Et nos enfants avaient la peur au ventre pour que ce soit une année blanche. Effectivement, des renseignements que nous avons reçus de la zone A, que vient de citer le directeur de cabinet, les établissements sont ouverts effectivement le 15. Et il y a eu en Goumo aussi des enfants qui ont repris les cours. On nous a fait savoir que ce qui manque, ce sont les kits sanitaires qu'ils n'ont pas reçus. Ça inquiète les parents.
Mais donc il y a un manque de kits sanitaires pour la protection. Et pourtant le ministre a déjà annoncé. On y revient avec Dr Ernest Mada pour en savoir davantage après. Si ça vous va bien.
Ok, ça va.
D'accord.
Bien.
De votre côté, de l'opposition, je rappelle que Fali Taruka Chabaz est le porte-parole du Chemin de l'Espérance. C'est le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale Abdou Karim Mekassoir, déchu du perchoir. Bon, c'est juste un rappel, quoi. Parce que vous étiez hier avec Guira. C'est ça, le parti de l'ancien président aussi du CNT, M. Nguindib, maintenant.
Que je salue.
Voilà, et les gens pourront vous poser la question, mais est-ce qu'il a changé de casquette? Aujourd'hui, c'est la reprise, depuis 15 jours, presque 15 jours, nous avons la reprise des cours dans la zone pédagogique A, que je venais en peine de citer certaines villes, préfectures. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous pensez que c'est une bonne initiative pour que les enfants reprennent les cours?
Merci beaucoup, monsieur Armando Yanangi. Vous savez, ce qui nous anime, nous, quand on fait de la politique, c'est d'abord et avant tout, surtout, en RC actuellement, la sécurité. La sécurité est plus importante que tout dans le pays qui est le nôtre aujourd'hui. Si, effectivement, les autorités centrafricaines décident de réouvrir les écoles, la question qu'on se pose, c'est de savoir sur quelle base scientifique ces écoles ont été réouvertes.
Vous posez la question à monsieur, madame.
Je pose la question aux autorités parce qu'il faudrait qu'on donne davantage d'informations, que nous, qui sommes aussi des parents, nous sachions si on va exposer nos enfants à des dangers. Parce que c'est, comme l'a dit le directeur de cabinet, c'est une pandémie, donc c'est une épidémie mondiale qui a des risques terribles. Dans d'autres pays, on a assisté à des réouvertures prématurées et ça a causé 69% de hausse hein, du Covid-19. Donc, on ne voudrait pas
ici,
être...
Ici, en Centrafrique, c'est ça?
Non, je donne un exemple parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels qui sont précipités pour rouvrir, parce qu'il faut réouvrir.
Oui, oui.
Sur quelle base, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le taux d'incidence est élevé. Le taux de positivité est élevé. Le taux de reproduction effective du virus est élevé. On a atteint plus de 5000 contaminés. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui pour pouvoir réouvrir? Est-ce qu'on a rouvert en présentant des éléments scientifiques probants montrant que les élèves ne seront pas exposés? Et on revient juste sur les mesures, parce qu'on parle des mesures qui ont été prises pour pouvoir permettre l'ouverture des écoles. Quelles sont ces mesures? Déjà, un, est-ce que les écoles ont été désinfectées avec de l'eau chlorée? Est-ce que les bancs ont été nettoyés? Est-ce que chaque parent a la possibilité de fournir à son enfant un cache-nez, une solution chlorée ou bien alcoolisée? Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Si vous consultez aujourd'hui les directeurs des centres des écoles, ils vous diront que dans le public comme dans le privé, il n'y a pas de kit sanitaire à la disposition des élèves. Il devrait y avoir à l'entrée de chaque école des points d'eau avec du savon. Déjà, hors période coronavirus, nous avons ce problème d'eau à l'école. Ce problème-là existe de savoir. Non, maintenant, est-ce que les conditions sont réunies? Je doute de cela parce que je reviens à peine de mon inscription dans l'école. J'ai fait mon enregistrement pour les élections et je vois que non. Parce que dans les écoles qui ont été récemment utilisées, où il y a des rassemblements nombreux, ça nécessite également que l'on nettoie cela. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous nous inquiétons. Est-ce que le gouvernement, simplement pour montrer qu'il veut réouvrir, mais il met nos enfants en danger, donc nous-mêmes en danger? Mais c'est ça qu'on voudrait avoir, cette clarification-là. Et merci, grâce à Dieu, nous avons en face de nous le directeur du ministère d'éducation qui va nous donner plus d'éclaircissements par rapport aux conditions qui ont présidé à cette décision.
Paul Cresson-Beniga, vous êtes de la société civile, hein, vous êtes aussi porte-parole. J'ai vu sur votre poste, vous avez lancé des appels afin que les gens, surtout les parents, puissent être vraiment au point et de respecter surtout la distanciation et les gestes barrières. Est-ce que vous pensez que cette reprise, elle est vraiment trop tôt, comme a dit M. Chapouba?
Bien, merci. La question que vous me posez est une colle. Je vais tâcher d'apporter des éléments de réponse. Je fais partie de ceux qui, dès le début, au mois de mars, ont appelé à ce que des mesures barrières soient édictées pour que la pandémie ne puisse pas s'étendre sur toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un dilemme et il y a des voix qui s'opposent. Il y a des voix qui pensent qu'il va falloir blanchir l'année. En fait, c'est le mot. N'ayons pas peur des mots. L'expression n'a pas de pudeur. Il y a ceux qui pensent qu'il va falloir blanchir l'année. Il y a ceux qui pensent qu'il faut sauver l'année. Aujourd'hui, je prends position en disant que
il est extrêmement important
de sauver l'année. Et je vais dire pourquoi il faut sauver l'année. Notre pays est un pays qui, depuis plus de deux décennies, est confronté à des crises qui ont porté un coup fatal à notre système éducatif, que ce soit primaire, fondamental, au niveau du lycée ou collège,
surtout les plans,
au niveau de l'enseignement supérieur. Et je pense que si nous décidons de blanchir l'année, nous allons asséner un coup très dur à notre système éducatif. Et c'est cette raison qui m'a amené à penser qu'il faut sauver l'année. Ceci étant, sauver l'année, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vite, mais il faut penser la chose pour que la reprise soit effective et que la reprise ne constitue pas un élément supplémentaire qui porte un coup non seulement à notre système de santé, qui est extrêmement fragile, mais aussi à notre système d'éducation. Je m'explique. Aujourd'hui, sauver l'année, ça veut dire privilégier les classes d'examen. Je suis entièrement d'avis avec les départements de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Puis après, donner la chance à ceux qui sont dans les classes intermédiaires de reprendre.
Oui.
Et donc, la question qui est posée ici par M. Chabaz me paraît extrêmement importante, mais je voudrais effectivement que les responsabilités soient dégagées. Et dans le cas de mon centre de recherche, j'avais lancé dans le cas du bulletin mensuel, le bulletin du mois de juillet, c'était porté sur Covid-19 en République centrafricaine, regard des universitaires. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup de chercheurs ont contribué au travers des articles. Et ce qui revient effectivement, c'est qu'il faut encadrer la reprise. Il faut encadrer la reprise. Et encadrer la reprise, je le dis souvent, cela doit se faire dans une dynamique pluridisciplinaire. Ça ne doit pas concerner exclusivement ou uniquement les départements de l'éducation ou de l'enseignement supérieur. Je regrette, on aurait pu avoir autour de ce plateau ceux de l'éducation, mais aussi ceux de la santé. C'est extrêmement important.
En tout cas,
parce que lorsqu'on décide de la reprise, il faut que le département de la santé soit associé. Lorsque le département
mais cela n'empêche pas parce associé. Que le directeur de cabinet est là, il va répondre peut-être à cette question ouais. parce que le ministre Moukadas nous a dit
tout est des éléments voilà, pour répondre, voilà. C'est extrêmement important. Oui. Pourquoi je le dis? Vous savez, toute crise, lorsqu'on veut trouver des éléments de réponse, il faut nécessairement mettre en place un comité pluridisciplinaire. La pandémie de Covid-19 est une affaire qui concerne tout le monde, qui concerne l'économie, qui concerne les finances, qui concerne l'éducation, qui concerne la santé, qui concerne les chercheurs. Et si on n'arrive pas à mettre un comité pluridisciplinaire, même les parents d'élèves, lorsqu'on n'arrive pas à mettre ce comité pluridisciplinaire, on peut effectivement être amené à regretter ce qui est décrié ça et là. Mais je pense qu'il est nécessaire de sauver l'année parce que notre système éducatif tel qu'il est, il est extrêmement fragile et c'est important de
merci
sauver
beaucoup.
L'année.
Avant de revenir vers vous, monsieur Zenet Dewa, je reviens vers docteur Ernest Mada. Vous avez écouté la question de Charou Katsabaz sur la base scientifique qui permet votre département de rouvrir les écoles et surtout de démarrer l'année malgré que la pandémie de Covid-19 est encore pendante dans le pays.
Merci beaucoup. Je préfère commencer par marquer mon accord avec l'intervention de M. Beninga qui pense qu'il est important de rouvrir les écoles. Pourquoi ? Parce que le système éducatif constitue également un support de communication, c'est-à-dire de sensibilisation et de protection contre le coronavirus. Reprendre les activités pédagogiques permettra aux acteurs agréés de pouvoir passer plus de sensibilisation, plus de communication. Je suis à nouveau d'accord avec lui de constater l'absence du ministère de la Santé et de la population qui est un acteur essentiel dans ce genre de discussion. L'absence remarquée autour de la table, mais remarquée également quand il était question de traiter, d'assurer la couverture médiatique de la grève.
Mais je vous rappelle rapidement et que monsieur le ministre nous a confirmé qu'il y a des dispositions et la réouverture des écoles a été faite en commun accord avec le ministère de Santé.
Voilà. Et là où je ne marque pas mon accord, c'est qu'il y a des comités techniques qui existent. Cette pandémie est gérée d'abord par un comité de pilotage qui est présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il y a également un comité technique qui est présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, appuyé par le ministre de la Santé, le docteur Somsi. Et des analyses très importantes sont menées au sein de cette équipe. Et c'est sur la base des recommandations de cette équipe au comité de pilotage que la décision de réouverture des salles de classe ont été prises. Sur quelle base scientifique ? Monsieur Chabaz posait la question. Nous savons que la distribution spatiale de la pandémie n'est pas la même dans les communes de notre pays. La zone A, je l'avais dit tout à l'heure, est une zone où le taux de prévalence est moindre. Minimisé. Comparé au taux de prévalence dans la zone A qui reprend les activités scolaires le mercredi.
Il y a l'exemple de Bouaire, non loin du Cameroun.
Voilà, c'est ça qui explique que cette zone doit démarrer avec un déphasage. Le temps de prendre des dispositions conséquentes par rapport aux mesures, par rapport aux protocoles sanitaires qui ont été édictés par son Excellence, Monsieur le Ministre. Je sais également que la reprise est progressive, elle est graduelle. On commence d'abord par les classes d'examen étendues aux enfants du fondamental 1. Je l'avais dit également que la veille scientifique nous renseigne que les enfants ne constituent pas un foyer de portage ou de transmission de cette maladie. Et lorsque vous regardez les statistiques du ministère de la Santé et de la Population, vous allez vous rendre compte que la tranche 0-9 ans est certes touchée. Il y a des cas positifs, des cas confirmés dans cette tranche d'âge, autant que dans la tranche 19 ans, qui couvre le préscolaire, le fondamental 1, le fondamental 2. Donc, une tranche essentielle de notre système d'éducation et de formation. C'est des informations qui ont été aussi à la base scientifique de la décision qui avait été prise.
Mais vous avez oublié qu'il y a...
Je complète.
Oui,
je n'ai pas terminé mon raisonnement.
Oui, allez-y rapidement.
Je n'ai pas terminé mon raisonnement. Des mesures ont été prises, des dispositions ont été prises pour que le protocole sanitaire puisse être respecté. Il n'y a qu'à se rendre à Sibut, là où les ministres se sont rendus pour procéder au lancement des activités pédagogiques. Il faut attendre à partir du 29 pour ce qui concerne la zone A et éviter de se perdre en conjoncture. À partir de lundi, je sais qu'une campagne logistique va être mise en route par le ministère en charge de l'éducation nationale à destination des établissements qui sont placés dans la zone d'observation pédagogique.
Mais vous ne pensez pas qu'on devait mettre tout ça en amont avant de commencer?
Nous avons certes pris un peu de retard, mais je pense qu'il faut plutôt attendre à partir du 29 pour commencer à émettre tel ou tel jugement de peur de se perdre en conjoncture. Donc je rassure au nom du ministre, au nom du gouvernement que je représente ici, les parents, nos élèves, que le gouvernement a pris des mesures. Le président de la République, chef de l'État qui préside le comité de pilotage, avait dit dans son adresse à la nation qu'une campagne de confection de 10 millions de masques était lancée. L'exécution de cette décision est en route. Et à l'heure où je vous parle, si le ministère de la Santé et de la Population était représenté autour de la table, ou plus précisément, si le comité méthode et stratégie qui fait partie de l'équipe technique en charge de la gestion scientifique de cette maladie était représenté ici, si un spécialiste de santé publique, puisque nous débattons d'une question de santé publique, et nous en avons, parce que je sais par exemple que lors du concours d'agrégation de 2018, nous avons eu la chance parmi les 6 promus d'avoir un spécialiste, un nouveau spécialiste en matière de santé publique. Leur présence était tout aussi importante pour donner de la qualité à cette discussion et ils auraient confirmé.
Monsieur le directeur de cabinet, je pense que c'est à vous de nous donner toutes ces informations parce que vous avez travaillé en commun accord avec toute cette équipe avant de lancer la reprise des cours. Donc, en tout cas, je pense que vous avez toutes les dispositions pour que les choses reprennent en tant que telles. De votre côté, Monsieur Zinette Ndewa, je rappelle que vous êtes secrétaire général lors du groupement des établissements d'enseignement privé de Centrafrique. Vous, au niveau des établissements privés, quelle est donc la situation en ce moment? Il y a certains établissements privés qui ont repris les cours avant même le lancement officiel de la reprise par le gouvernement.
Bien, merci. Je crois que le 12 juin, au niveau de l'établissement Galaxy, le ministre avait convoqué tous les promoteurs des établissements privés pour une réunion. Et l'objectif de cette réunion était de voir dans quelle mesure on pouvait rouvrir les établissements privés. Il a d'abord regretté que, pour la plupart de ces décisions prises au niveau du ministère, les établissements privés sont mis à l'écart. Et il s'est rattrapé par la suite pour nous convier à cette réunion-là. Et lors de la réunion, je crois que le ministre était bien clair. Il disait que pour toute reprise au niveau des établissements publics et privés, on doit d'abord désinfecter toutes les écoles, toutes les salles des établissements privés et publics.
Est-ce que cela a été fait, par exemple, dans les établissements privés?
En ce moment, je ne pense pas. Je crois que le docteur est là.
Oui. Vous avez il va nous prouver.
Oui. Et donc, les enseignants devraient être dépistés obligatoirement. Tous les enseignants devraient être dépistés. Les élèves également devraient être dépistés. Les kits devraient...
Les élèves des classes d'examen, il faut préciser. Hein.
Pas seulement les classes d'examen, puisque la rentrée est progressive. Et comme la rentrée est progressive, on devait en principe donner le statistique des apprenants de chaque établissement. Et donc, on devait réserver ces kits-là pour la reprise de ces classes intermédiaires. Alors, nous sommes vraiment surpris. Moi, par exemple, je suis surpris que on nous dit on reprend le 29. Certes, nous sommes pour la reprise, mais les conditions de reprise, en tout cas, ne sont pas du tout normales. Ne sont pas réunies d'ailleurs. Et là, nous sommes en train d'envoyer nos enfants et nos enseignants, je crois même à la morgue, parce que rien n'a été fait jusqu'alors.
Mais le DICAB a dit clairement que les enfants ne sont pas vraiment les plus exposés de cette maladie.
Ça n'engage que lui. C'est un politique, moi je ne le suis pas.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous au niveau privé? Est-ce que vous comptez aussi que le gouvernement puisse vous voler au secours afin que la reprise soit effective? Parce que vous doutez encore de cette reprise.
Tout à fait. Je crois que lors de cette assemblée, nous avons émis des vœux au ministre.
Comme quoi?
Comme quoi, d'abord les kits, que nous avons souhaité que les kits soient distribués. Nous avons souhaité que les mesures d'accompagnement soient prises pour les établissements privés. Je rappelle même au directeur de cabinet ici présent que le 12 où on tenait la réunion...
Le 12 juin.
Le 12 juin, bien sûr.
Oui.
Où on tenait la réunion, le ministre nous avait dit que ce n'est pas un secret de Polichinelle. Je répète ces mots. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Je suis en train de dire devant mes techniciens qu'il y a déjà un fonds disponible pour les kits scolaires. C'est ce que le ministre avait dit devant tout le monde. Et il ne reste que des formalités administratives. Je ne sais pas si les formalités administratives ont déjà abouti. Ça, je n'en sais rien.
Oui, le cabinet va vous répondre. Oui, voilà. Allez-y, vous filez, c'est très rapide.
Et donc, si les formalités administratives sont terminées, mais on devrait en principe voir l'effectivité de ces kits-là dans les établissements. Moi, par exemple, j'ai mon établissement dans Bimbo. Et à Bimbo, par exemple, jusqu'alors, je ne sais pas, est-ce que y a quelque chose qui est fait dans ce sens? Je n'en sais rien. On a mis un comité technique au niveau du ministère qui regroupe donc les techniciens du ministère. Et lors même de la réunion, là, le ministre avait instruit le chargé de mission et le DG pour que les représentants des établissements privés puissent être associés. Je vous assure, depuis ce jour que nous sommes associés à cette réunion-là, pas une seule fois, nous avons été conviés.
Et donc, en un mot, rapidement, vous doutez fort de cette reprise du 29 juillet par rapport à la zone A, je crois. Ah, c'est la zone A qui concerne Bangui, y compris Lomelapoko, Nana Mambéré, Mambéré Kadeye, Sangamaya, c'est ça?
Je suis vraiment Saint Thomas.
Ok. Rapidement, quelques secondes, Monsieur Paul Cressant Benega, vous voulez réagir, je vois.
Oui, non, je voulais réagir parce que Monsieur Madaer est venu tout à l'heure sur un désaccord, mais en fait, il y a un malentendu. Je ne nie pas l'existence de ces comités techniques qui existent aussi bien au niveau de la présidence pilotée par le président de la République qu'au niveau des ministères. Mais moi, je parle davantage d'un comité pluridisciplinaire. Et au-delà de l'aspect scientifique, il faut également donner une valeur sociale à ce comité. Je m'explique. Lorsque M. Zenet revient sur la composition de ce comité au niveau du ministère et regrette l'absence des représentants, par exemple, du secteur privé, je vais dire de l'enseignement privé, les représentants des parents d'élèves, c'est de cela que je parle. Pourquoi ? Je le dis parce que la pluridisciplinarité permettrait de résoudre en amont les problèmes qui sont décriés aujourd'hui. Je donne des exemples simples. Il me semble qu'avec 10 milliards, on a voulu que chaque Centrafricain ait au moins 2 masques. En réalité, avant la reprise, on devrait déjà partager les masques. La responsabilité ne vous revient pas au niveau du département de l'enseignement. La responsabilité revient peut-être au département de la santé ou au département des affaires sociales, que sais-je. Mais si ce comité pluridisciplinaire existe, on aurait pu résoudre le problème en amont. Et quand on dit le 29, les cours doivent répondre, les responsables, ceux qui représentent les parents d'élèves, ceux qui représentent le secteur privé, ne vont pas s'inquiéter. Ils savent que toutes les mesures ont été prises pour que la reprise soit effective et qu'on n'arrive pas à décrire un certain nombre de manquements. Alors donc, pour moi, je plaide effectivement pour un comité pluridisciplinaire qui réfléchit en amont sur tout ce qui va être fait. Je suis entièrement d'avis que cette affaire-là
Mais vous
éminemment...
ne pensez pas que c'est trop tôt?
Ce n'est pas trop tôt.
C'est trop tard, oui.
Ce n'est pas trop tard.
Mais bientôt 29 juillet.
Bientôt 29 juillet. On peut même travailler le week-end, ce n'est pas trop tard. Si on évalue et qu'on se rend compte que les masques ne sont pas disponibles, les kits pour lavage de mains ne sont pas disponibles, ne rendant pas la reprise effective le 29 juillet. Il veut également de la santé des enfants qu'on va envoyer dans cet établissement-là. Moi, en fait, je veux qu'on aille au-delà de nos divergences.
Oui,
qu'on voit
mieux,
les choses, qu'on devienne des forces de proposition. Au moins, c'est extrêmement important parce qu'il va de la santé publique. Les enfants qui vont être envoyés, ces enfants-là vont rentrer à la maison, seront en contact avec les parents, seront en contact avec la société. Et si on ne fait pas attention, cette reprise peut constituer un élément dangereux pour la santé. Et je finis...
Quelques secondes.
Oui, je finis en disant ceci.
Je vous en prie.
Je veux revenir sur la question des tranches d'âge. Oui, je suis entièrement d'avis. Les statistiques l'ont démontré. Mais la pandémie de Covid aujourd'hui, du plan de vue technique, du plan de vue scientifique, du plan de vue sanitaire, on n'arrive pas à maîtriser encore cette pandémie. Aujourd'hui, les scientifiques, notamment ceux de la santé, nous disent ceci. Demain, ce qu'ils ont dit ont été remis en cause par d'autres scientifiques. Donc, la question, par exemple, des tranches d'âge, je suis entièrement d'avis lorsque le DIRCAB a évoqué cette affaire-là. Je pense qu'il faut relativiser cela parce que même les enfants de 3 semaines D'accord. ont été contaminés. Et donc, à partir de ce moment, il faut prendre toutes les mesures avant de décider.
Mais
de
donc,
la
ça, veut dire que, ça veut dire que le taux qu'a émis tout à l'heure, monsieur Chabaz, sa raison d'être.
Mais je ne le contredis pas. Je dis juste
juste rapidement, oui, vous voulez rebondir rapidement, c'est ça.
Je voudrais rebondir.
Quelques secondes, je vous donne, monsieur le directeur.
Rapidement.
D'accord.
Oui, c'est vrai qu'on nous parle des tranches d'âge. Je voudrais être pragmatique le plus pragmatique possible. Des pays avant nous ont connu le Covid-19. Des pays avant nous ont confiné. Quand ils ont eu la même logique en disant qu'il faut réouvrir les écoles, je prends le cas de la France. Dernièrement, ça, ils sont tombés. On a fait la réouverture précipitée dans certaines écoles. Taux d'incidence, 69%. Ça, c'est les enfants. Il y a un mois, on nous disait que non, il faut 1 mètre de distance, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que quoi ? Qu'il y a des suspensions du Covid-19 dans l'espace. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, moi, je parle en tant qu'homme politique, Ce qui est important, c'est la vie humaine. Si vous lisez la Constitution du 30 mars 2016, l'article numéro 1, c'est « La vie humaine est sacrée ».
Oui, elle est
sacrée. Et nous devons tout mettre en œuvre pour la protéger et la préserver. Si aujourd'hui nous avons un doute au niveau scientifique, nous devons mettre en danger nos enfants, les exposer à ce danger-là. Aujourd'hui, nous savons, c'est clair et net, aucune école n'a été désinfectée. Aucune école ne dispose de savon, d'eau, etc. Aucune école ne dispose de tests. Ici, le DIRCAM nous a dit quoi ? Le pays a fait 30 000 tests sur 5 millions de personnes, c'est-à-dire 0,006%. Nous raisonnons à partir de 0,006%. Donc nous raisonnons à partir de quasiment rien. Ce n'est pas suffisamment significatif pour prendre une décision. Je le répète, politiquement
mais,
parlant.
Mais tout en sachant que, comme a dit DIRCAM, il y a certaines zones qu'on peut toutefois minimiser.
Monsieur Armando, nous partons sur une jurisprudence. Parce qu'il y a la jurisprudence accord de Khartoum. On nous avait promis, non, vous aurez la paix, nous avons pris toutes les dispositions pour que nous puissions être en paix, etc., en sécurité. Aujourd'hui, des facameurs, des... Non, mais ne riez pas. C'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Le chef de l'État avait pris cet engagement en disant que, dorénavant, après l'accord de Khartoum, aujourd'hui, on nous dit encore, on a pris les dispositions pour que vos enfants soient en sécurité. Et demain, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, je dis... Présentez-nous factuellement les éléments scientifiques qui nous corroborent, qui montrent clairement que nous pouvons reprendre.
Vous souhaitez répondre à cette question.
Mais avec les éléments scientifiques qui démontrent.
Oui,
quelques instants.
Je vous en prie, pas
sur la base de 0,006% de tests.
Non, écoutez, mais c'est une question posée.
Attendez, je vous en prie.
Je vous donnerai la parole. Je comprends votre
souci. Juste pour une précision.
Complétez rapidement.
Le DIRCAM. Parce que je voulais le préciser ici. Monsieur DIRCAM. On a dit qu'il y a l'arrêté qui est avec moi. La réouverture des salles de classe, normalement, tout le fondamental 1 doit reprendre le 29. Ce n'est pas dire que l'article 8 de cet arrêté dit dans la zone B, en ce qui concerne le préscolaire, le fondamental 1, les classes de 3e et les classes de terminale. La date de reprise est fixée au mercredi 29. Vous voyez ? Donc le fondamental 1 et les préscolaires doivent reprendre le 29.
Donc c'est une précision.
C'est une précision que je vous fais ici.
Vous, au niveau des parents d'élèves, apparemment vous êtes inquiet par rapport à cette reprise, en sachant qu'il y a des dispositions qui ont été prises, comme a dit monsieur le directeur de cabinet.
On s'inquiète parce que nous on n'a pas eu les kits qui ont été promis.
Okay.
Et là on nous dit quelquefois on arrive, on dit que ce sont les parents d'élèves qui doivent désinfecter les salles. Nous
on n'a pas les moyens. Je vous rassure que le ministre Kadas Nour a dit sur nos zones ici en Dikeluka que tout a été mis en œuvre pour que nous puissions arriver. C'est-à-dire
Est-ce que c'est pas ce qui a été dit, monsieur Dikeluka? Attendez, je vous reprécise que pour l'instant que je suis là, nous sommes en train de faire une assemblée générale avec nos bases
pour prendre des décisions.
Oui, pour préparer la rentrée de la réouverture du mercredi. Oui. Je viens de cette réunion où notre réseau est en train de se réunir et on est en train de les sensibiliser pour prendre les dispositions pratiques quand même.
Quelles sont les dispositions pratiques ? Ça veut dire que vous, les parents d'élèves, allez désinfecter, c'est ça ?
Mais non, on n'a pas la possibilité de désinfecter, on a la possibilité de nettoyer. On peut nettoyer la cour, nettoyer les salles.
Okay.
Et maintenant, c'est au gouvernement de venir désinfecter. Je crois qu'on a commencé à l'université, on a commencé au lycée Caron. Mais si on ne désinfecte pas les autres établissements, je crois que les enfants...
Merci beaucoup.
Monsieur Armando, je vous en prie.
Une seconde.
Merci. Là, la précision est importante. On nous parle du retour du préscolaire.
Oui.
Mais dans le calendrier, nous sommes en juillet, mettons en août. Quel est l'intérêt de faire revenir des élèves?
Ok, vous avez plein de questions à poser. Donc,
quel est l'intérêt?
Docteur Ernest Mada, vous avez quelques questions. Vous avez compris qu'il y a un peu de doute par rapport à cette reprise. Est-ce que les élèves des classes d'examen auront-ils des masques? Est-ce qu'ils seront aussi dépistés? Comme a dit monsieur le ministre Moukadas Nour, est-ce que également les enseignants seront-ils dépistés?
Des doutes, du scepticisme, du pessimisme. Et un peu de versant politique, je pense qu'ils n'ont pas leur place dans cette discussion qui se rapporte à l'éducation nationale. Nous n'avons pas à faire un mélange entre certaines choses. Et je veux rassurer que ce qu'a dit son Excellence Monsieur le Ministre en charge de l'éducation nationale se concrétise. À la requête du ministre de l'Éducation nationale à son collègue de la Santé et de la Population, des instructions ont été données au projet Londo qui gère techniquement la confection des masques qui était demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et au jour où nous sommes en train de parler, il y a à peu près 145 000 masques qui ont été produits par le projet Londo et mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, auquel s'ajoutent également d'autres masques qui ont été fournis par des bonnes volontés, des compatriotes qui prennent vraiment à cœur cette question. Vous vous souviendrez que beaucoup de compatriotes de plusieurs bords ont été vraiment très, très, très solidaires par rapport à cette pandémie. Et donc, ces masques, je l'avais dit tout à l'heure, ont pris un peu de retard.
Sont disponibles maintenant. Sont disponibles. Oui. Et seront distribués dans quelques instants.
Oui, c'est juste une question de temps, comme le disaient certains tout à l'heure. Mais la logistique va se mettre en marche très rapidement.
Mais donc, cela veut dire que ceux de la zone B qui ont ouvert les classes n'en ont pas encore.
Et il y avait une mise à disposition, il y avait une dotation, certes, qui n'était pas complète, qui avait été mise à la disposition de cette zone. Mais je précise que il faut raisonner en termes d'effectifs. L'effectif des élèves qui sont dans la zone A, qui avait repris auparavant, n'est pas supérieur à l'effectif de ceux qui sont dans la zone B. Oui. Nous avons au total une population scolaire estimée à 1 900 000, les enseignants et les administratifs y compris, et plus de la moitié, environ, je pense les deux tiers se trouvent dans l'inspection d'académie, disons dans la zone d'observation pédagogique A, qui renferme l'inspection d'académie de Bangui, l'inspection d'académie de l'Ouest et l'inspection d'académie du Centre-Sud, comme vous l'avez su bien dire tout à l'heure. Alors, ces masques seront donc mis à disposition, je rassure.
Donc, ensuite, avant le 29 juillet. Avant le 29 juillet.
À partir du 29, ces masques vont être mis à disposition progressivement. Et quand vous comptez la population qui rentre en salle de classe à partir du 29 et que vous la comparez à l'effectif des masques que nous avons, il n'y a pas lieu d'être aussi pessimiste, il n'y a pas lieu de faire des affirmations dans le sens de jeter le pessimisme dans l'esprit, dans l'opinion publique.
Mais donc,
et je précise également, pour répondre à la question évoquée tout à l'heure par le représentant des établissements, effectivement, il y a un plan de riposte global au niveau national qui avait été élaboré et qui inclut un plan de riposte spécifique au ministère de l'Éducation nationale et qui a constitué un outil de mobilisation de ressources. Je peux rassurer qu'aujourd'hui, le partenariat mondial pour l'éducation auprès duquel notre gouvernement a eu à mener un plaidoyer a accepté de mettre à disposition un certain montant d'argent au même titre que d'autres bailleurs pour pouvoir contribuer à l'effectivité des mesures barrières contre le coronavirus.
Mais est-ce que le coupement des établissements privés...
Je termine maintenant en évoquant la question de représentativité au niveau des discussions qui sont en train d'être menées, représentativité des établissements privés. Je pense qu'on ne pouvait pas asseoir plus d'un million de personnes autour de la table au niveau du ministère de la Santé publique. Il y a un certain niveau de représentativité là-bas. Ensuite, les discussions. Il y a un relais qui est ensuite pris au niveau sectoriel. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, après que le ministre avait constaté l'absence des établissements privés dans les discussions, nous avons réparé la situation. J'ai eu à inviter personnellement des responsables des établissements privés au travers de leur association, l'APEP, qui ont pris part à des discussions importantes que nous avons menées au niveau du ministère de l'Éducation nationale et nous restons parfaitement disposés à poursuivre ces discussions.
Rapidement, une dernière question à vous, afin qu'on puisse avancer dans ce débat. Est-ce que vous avez combien d'enseignants à dépister ?
Très bien. La question, il ne faudra pas regarder la question de dépistage ou bien la question des désinfections de façon isolée. Il faut regarder le protocole sanitaire d'une manière globale. Il y a...
Mais nous parlons de la reprise.
Il y a, oui, bien sûr, je suis en train de répondre à votre question. Le ministre de la Santé et de la Population a mis en avant des conditions dans lesquelles on peut procéder à un dépistage d'élèves ou bien d'enseignants au même titre que d'autres centrafricains. Parce qu'il ne faut pas essayer de spécifier les choses. Même dans les pays les plus développés, le dépistage n'est pas systématique.
Vous répondez à ma question pour qu'on gagne du temps,
on ne dépiste pas toute la population.
Non, vous répondez à ma question. J'ai dit combien d'enseignants disposez-vous pour le dépistage pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez un chiffre à nous proposer rapidement, parce que si vous mettez...
Nous avons 600 enseignants au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons près de 9000 enseignants au niveau des autres ordres d'enseignement.
Mais vous voyez 9000...
Et je réitère, permettez-moi de terminer plus calmement mon intervention, sans pour autant m'interrompre.
Non, c'est mon droit et c'est mon devoir, c'est moi qui gère le débat, comme ça on évolue, et donc je regarde le débat pour qu'on évolue, monsieur le directeur de cabinet.
Voilà, donc je réaffirme que même dans les pays développés, qui ont été également bouleversés dans leur pratique par cette pandémie. Le dépistage n'est pas systématique pour toute la population. Ce n'est pas possible.
Wow.
Et le ministre de la Santé, le ministre de la Santé l'a bien précisé dans des circonstances, dans des circonstances précises, il sera procédé au dépistage des enseignants et au dépistage des élèves. Le protocole sanitaire qui est contenu dans l'arrêté du ministre précise bien cela. Et je tiens également à compléter que tout ne se résume pas à la question de dépistage, à la question de désinfection. Mais désinfection, nous en avons eu au niveau de l'université de Bangui. Ensuite, il y a d'autres mesures sur lesquelles il faut mettre l'accent. Les mesures de distanciation physique, des dispositions en matière de lavage de mains ont été prises. Voilà quelques éléments de réponse par rapport à votre
rapidement, monsieur Zenel Ndewa, oui. Vous êtes toujours inquiet par rapport à toutes les réponses données. Hein. Je vois votre manifestation de prendre la parole.
En tout cas, je vous remercie, Armando. Je regrette les propos du DIRCAM. Je parle en tant qu'enseignant et en tant que promoteur. Je regrette. Simplement parce que, moi par exemple, en tant qu'enseignant, on dit qu'on devait respecter la distanciation sociale au niveau de chaque classe. Et on nous a instruit de subdiviser les salles de classe. À supposons que, moi par exemple, dans ma classe, j'ai 234 élèves. S'il faut subdiviser en 25 élèves par classe, nous aurons combien de classes? Et où nous allons trouver donc les enseignants pour venir enseigner ces élèves-là. Vous voyez? Et donc, c'est impossible d'appliquer tout ce que le DICAP vient de dire.
Ok, voilà. Rapidement, oui, quelques secondes, M. Chabaz. Quelques secondes.
Oui, le DICAP nous a parlé des ressources. Le gouvernement nous avait annoncé 100 millions hein, pour cette opération. Et puis,
mais déjà 45 000 hein, selon le DICAP.
Oui, oui. Oui, d'accord.
Ils se sont déjà confessionnés et mis à la disposition.
Oui, mis à la disposition. Voilà, mais on ne les voit pas, c'est des fantômes. D'accord. C'est des masques fantômes.
Non, ça y est, parce que.
C'est à la disposition. Moi, j'ai des enfants. Mes enfants n'ont pas reçu de masque de l'État.
Mais donc,
c'est fantôme. Les savons, c'est fantôme. On ne voit pas. L'eau, c'est fantôme. Non, c'est toujours demain. On fera des tests. On fera ça. Mais la rentrée, c'est demain. On devrait avoir ça avant. On achète les effets scolaires avant d'aller à l'école et pas après. Donc, ça, c'est très important. Et je dis, c'est extrêmement grave ce qu'a dit ici mon frère le DIRCAP, de dire que ça ne se réduit pas à des questions... Mais si justement, c'est une question de santé publique. Il ne s'agit pas d'enseignement, c'est de santé publique. Demain, vous avez des enfants, j'ai des enfants. Moi, aujourd'hui, quand je vous entends, je ne suis pas du tout rassuré pour mettre mon enfant à l'école. Le 29, mon enfant n'ira pas à l'école. Parce que je ne veux pas aujourd'hui que mon enfant devienne une source de contamination dans le quartier. Parce que vous avez été incapable de nous rassurer, de nous donner des éléments scientifiques probants qui montrent que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires. Quand on entend les discours des personnels qui sont sur le terrain, ils nous disent que ces dispositions sont aujourd'hui fantômes, nous ne les voyons pas. Et quand vous dites que non, c'est politique, oui c'est politique, on nous avait rassurés. Qu'on disait qu'on allait vers la paix, on a pas eu la paix. On nous a rassuré qu'on allait vers la santé publique, c'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un jeu, on ne rigole pas avec cela, c'est la vie des Centrafricains. L'avenir de la Centrafrique, c'est les enfants. Si aujourd'hui les enfants sont contaminés massivement, je pense que ce pays va disparaître. Donc, c'est vraiment très très sérieux. C'est un débat qui est extrêmement sérieux.
Merci. Avant de donner la parole à Paul Cressant Benenga qui demande rapidement, monsieur Zenet, en tant que promoteur, est-ce que vous serez prêt le 29 juillet parce que votre école fait partie de la zone pédagogique B? Est-ce que vous serez prêt en tant que promoteur d'ouvrir les salles de classe pour le 29 juillet?
Armando, je vous remercie encore une fois de plus.
Merci, rapidement.
Mais je vous dis que nous ne serons pas prêts pour la simple raison que, d'abord, il nous manque de financement pour ouvrir ces classes. Il nous manque les kits scolaires promis. Et donc, c'est difficile de réouvrir. Présentement, à l'heure où nous sommes en train de mener cette discussion, je vous assure que l'association des établissements privés est en réunion en ce moment. Nous sommes en réunion
C'est pour discuter de cette reprise.
De cette reprise-là et de voir aussi le calendrier scolaire qui a été présenté par le ministère de l'Éducation. Si effectivement le service technique qui est au niveau du ministère de l'Éducation nationale travaillait en synergie avec les autres, je crois qu'il ne devait pas avoir ce genre de réaction.
Merci beaucoup, monsieur Alain Lamoundé. Hein,
c'est Lumonde.
Lumonde, je vous en prie. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de Centrafrique. Oui. Vous avez écouté les arguments de monsieur le DIRCAP, vous avez écouté les uns et les autres. Vous, en tant que parent d'élèves, qu'est-ce que vous avez fait de votre association? Quelles sont les actions que vous avez menées pour sensibiliser les enfants afin qu'ils puissent répondre effectivement le 29 juillet prochain?
Ben justement, je vous disais tout à l'heure que nous étions en réunion pour instruire
nos bases, nos réseaux, pour prendre les dispositions pratiques par rapport aux parents d'élèves. Pratique pourquoi ? Pratique dans le sens que l'association des parents d'élèves est un partenaire de l'éducation. Donc, si l'arrêté étant sorti, les parents d'élèves doivent descendre sur le terrain, essayer de mettre à propre, nettoyer les salles de classe. Et
ça, c'est votre contribution.
Notre contribution, oui. En attendant que le département puisse faire sa partition, c'est-à-dire nous envoyer les masques, nous envoyer les kits sanitaires.
Vous êtes optimiste donc, pour la reprise du ménage.
Je te dis que nous sommes partenaires de l'éducation. Merci. Donc, si le DIRCAB confirme et que le gouvernement confirme, nous ne pouvons que faire confiance à ce qu'ils disent.
Monsieur Paul Cresson-Benega, rapidement, hein, et puis comme ça on évolue. De votre côté, vous avez aussi lancé des sensibilisations sur les réseaux sociaux, afin que les gens puissent se respecter. Mais avec tout ce qui a été dit par le DIRCAB, vous avez encore de doutes pour la reprise des classes.
Merci. Alors, d'après ce qui a été dit ici, je comprends qu'il y a un léger retard accusé au niveau du département et il va falloir y remédier. Mais je voudrais rappeler à M. Mada ici que, par exemple, pour moi qui suis politologue, aujourd'hui, on ne parle plus de la gestion de la chose publique, mais on va beaucoup plus vers la co-gestion de la chose publique, vers la participation de toutes les couches qui sont impliquées. Ces débats, ces discordances, ces divergences de points de vue relevés, ça et là, laisse entendre effectivement qu'il y a nécessité de mettre en place ce comité pluridisciplinaire. Il ne s'agit pas d'un million de personnes, comme vous l'avez dit.
Mais ça existe déjà, M. le
DIRCAB. Il ne s'agit pas d'un million de personnes. Il ne s'agit pas d'un million de personnes, comme vous m'avez répondu. Mais il s'agit des représentants. J'aurais aimé effectivement que M. Zenet, qui représente le secteur privé, puisse participer à cette prise de décision.
Je fais partie même de ce
mais vous n'avez pas pris part. Vous n'êtes jamais convoqué. Voyez-vous donc, ça veut dire que dans les faits, la matérialisation de la décision qui a été prise pour qu'il y ait ces représentants-là, dans les faits, on ne les voit pas.
Pourquoi j'insiste là-dessus
parce que ces divergences de vues, on aurait pu les élaguer bien avant.
Oui.
Si on n'arrive pas effectivement à les élaguer bien avant, c'est parce qu'il n'y a pas effectivement.
Mais comme vous l'avez dit, on a encore du temps hein, à galérer.
Alors, moi, je veux que la situation soit sauvée. C'est pourquoi je me constitue en une force de proposition dans ce débat.
Merci.
C'est dire quoi ? C'est dire qu'au sortir de là, le DIRCAB, en attente avec les ministres, peuvent rectifier le tir. En réalité, on ne peut pas attendre le jour J pour distribuer les masques aux élèves. Il faut que les responsables des établissements reçoivent, si vous voulez, toute la logistique bien avant le début. C'est-à-dire que si la rentrée, c'est mercredi, il faut au moins une semaine avant. Bon, maintenant, le mal est fait. Au plus tard lundi, que les gens aient ces logistiques-là. Et moi, j'ai un doute et je voulais poser une question. Il ne m'appartient pas dans ce débat de poser des questions, mais permettez-moi d'en poser
une.
C'est au niveau des écoles privées. Est-ce que dans l'entente avec le ministre, avec les départements concernés, les écoles privées doivent bénéficier de tous ces kits ou les écoles privées doivent se débrouiller d'elle-même? C'est extrêmement important
à le souligner. Je récupère votre question et puis je donne la parole rapidement.
Tout à fait. Et je finis sur la question de la distanciation physique. Maintenant, c'est également une question de capacité de chaque établissement.
Voilà.
Lorsqu'il y a 200 élèves dans une classe et qu'aujourd'hui, il faut saucissonner pour avoir 25 élèves, à un moment donné, je pense que le coût, il est énorme. Est-ce que l'administration va supporter les écoles privées? Est-ce qu'il y a un plan de financement pour les écoles privées pour supporter les enseignants qui arrivent et qui vont se relever ou c'est à un seul bonhomme qu'on va demander de revenir 4 ou 5 fois pour la même classe.
Voilà, un élément de réponse rapidement, monsieur le DIRCAB.
Je comprends bien, il n'est pas question que chaque responsable d'établissement privé puisse participer à toutes les discussions.
Non,
c'est une question de représentant. Voilà. Oui, voilà, non. Effectivement. Permettez-moi de terminer.
Oui.
Et je sais que, si certains ne le savent pas, les établissements privés sont constitués en association, l'APEP, l'association des promoteurs des établissements privés. Et il faut se renseigner auprès de cette association.
Je tiens à rappeler
permettez-moi de terminer.
Il y a deux associations des établissements privés.
Recadrez la discussion, monsieur Yang Indi.
Je tiens à rappeler
au recadrez la discussion.
Oui, je continue à recadrer. Vous avez la parole, vous finissez.
Et je poursuis en disant que les dispositions ne concernent pas uniquement l'acheminement vers les établissements des masques. Il y a des dispositifs de lavage de mains qui ont commencé déjà à être mis en place bien avant la discussion que nous tenons aujourd'hui.
Par les établissements eux-mêmes.
Le ministre Moukadas Nour a même eu à effectuer des visites ces derniers temps dans des établissements pour évaluer cette situation.
Voilà, on tend vers la fin de ce débat rapidement.
Je termine très rapidement en disant qu'on ne fera pas de distinction, de distinguo, entre enfants relevant des établissements publics ou bien enfants relevant des établissements privés. Donc, ce ne serait pas responsable d'un point de vue public. Ça ne
se fait pas. Ok, ok. Donc, voilà. Dernière question pour avancer et puis terminer avec ce débat Patara. Est-ce que les masques seront distribués avant le 29 juillet?
Vous avez particulièrement une préférence pour cette question?
Oui, c'est important, c'est de ça que nous avons tenu le débat. C'est une question de vie des gens.
La question ne concerne pas les mesures de protection, ne se centralise pas uniquement disons, à des questions de masques.
Non, ça, c'est la première.
Disons la logistique. Disons toute la logistique.
Non, mais si vous voulez bien la logistique. Voilà, et le dépistage aussi, parce que nous attendons à ça.
J'ai déjà répondu à cette question, monsieur Anguedi.
Monsieur Dirkab, je vous rappelle, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
En matière d'infrastructure.
Parce que là, on n'évolue pas. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question tout à l'heure?
Les questions de masques. Les questions de dépistage. Quelques secondes, rapidement. Les questions de dépistage ou bien les questions de désinfection. Je l'ai dit tout à l'heure, en matière de dépistage, le ministère de la Santé et de la Population a des modalités systématiquement.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas du tout prêt pour provoquer un dépistage.
Si les circonstances l'exigent, nous possédons un dépistage d'enseignants.
Donc ça veut dire que ce n'est pas avant le 29 juillet.
Nous possédons un dépistage lorsque la situation l'exige.
Donc les
nettoyages sont en train d'être faits. Et la question ne se résume pas seulement à des questions de dépistage.
Merci beaucoup.
Sur ce point, je suis totalement en désaccord avec M. Mada et je vais lui dire pourquoi. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Absolument. La reprise aujourd'hui est une mesure exceptionnelle qui a été prise. On ne va pas inscrire la politique de dépistage, qui est une politique globale, en voulant faire une sorte de greffe en ce qui concerne une mesure exceptionnelle. Je m'explique très facilement. Aujourd'hui, les enfants qui vont reprendre les cours, les enseignants qui vont reprendre les activités pédagogiques doivent être nécessairement et impérativement dépistés. Pour une raison simple. Un enfant peut être contaminé sans pour autant qu'il fasse la maladie, mais il peut contaminer les autres. Alors, si on n'arrive pas à faire une sorte de profilage de tous ces enfants, du point de vue sanitaire, c'est inquiétant quand même.
Merci beaucoup,
M. Dirkab. De ce point de vue, moi, je voudrais que je vous fasse un plaidoyer auprès du ministère de la Santé. Nous savons que les kits ne sont pas disponibles ou du moins ne sont pas en nombre conséquent, mais faites ce plaidoyer pour éviter effectivement qu'il y ait cas de contagion
lors de
ces reprises.
Merci, Paul Cressan Beninga. Rapidement, quelques secondes pour qu'on puisse clore cette partie.
Et puis deux mots
simplement. Monsieur Charouka.
Ici, j'avais parlé du calendrier qui ne cadrait pas, de faire entrer des préscolaires, faire entrer des enfants de ces âges-là, alors que nous sommes déjà en août, quasiment. Et là, on comprend que le gouvernement n'est pas prêt. Le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui déployés sur le terrain pour sécuriser les élèves et les enseignants. Donc, ça veut dire quoi? On va envoyer des enfants de 1 an, 2 ans, 3, 5 ans, 4 ans, 6 ans, etc. Non, on voit ces enfants-là à une période où ils devraient être à la maison. Pourquoi? Simplement pour que le gouvernement puisse dire nous avons réouvert. On va avoir une contamination, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? Déjà, Deuxièmement, je terminerai par ce point-là. Actuellement, on nous dit qu'il n'y a pas de division entre le public et le privé, mais sachez qu'actuellement, il y a un projet de loi qui est sur le bureau de la table du ministre Moukadas sur l'augmentation des frais d'ouverture des écoles privées. Donc déjà, nous avons reçu un choc. Mais les écoles privées ont reçu un choc déjà avec le Covid-19. Et maintenant, on va encore augmenter les frais. Donc déjà, on n'est pas prêt, on ne protège pas, et on va encore augmenter les frais. Bon, je sais que
ça veut dire que c'est un fiasco aussi long.
Mais total.
Merci
total
beaucoup. Merci.
Total.
Monsieur Zenet Ndewa, rapidement, pour que nous puissions mettre fin à ce débat d'aujourd'hui. Vous pensez que c'est pas du tout normal pour que la rentrée soit effective d'ici le 29 juillet?
Je crois que Armando, monsieur le Dicab, a dit ce que moi je ne m'y attendais pas. En réalité, il y a une comité qui est mise en place. Je reviens encore, si ce comité travaille en synergie,
il n'est pas question de regrouper tous les représentants. Vous l'avez déjà souligné, vous répondez à ma question pour qu'on gagne du temps. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment du tout normal pour que les élèves puissent répondre? Vous, en tant que promoteur, vous pouvez ouvrir l'école d'ici le 29 juillet.
Je crois que ouvrir l'école le 29 juillet, en tout cas, c'est un problème.
Oui, merci beaucoup. C'est un problème. Et de votre côté, monsieur Alain Loumandé, je prononce normalement le nom maintenant.
Mais comme je le disais tout à l'heure, nous, les parents d'élèves, nous voulons que l'année soit sauvée, comme l'a si bien dit Beninga. Pourquoi? Parce que je crois que depuis trois dernières années, le niveau a commencé à être relevé. Et si on ne sauve pas cette année, vraiment, ça serait catastrophique pour nos enfants. Donc, le gouvernement, c'est comme a dit Beninga ici, ce que nous proposons ici, ils prennent ça
en compte
oui. Et que
c'est la réalisation qui compte. Il ne suffit pas seulement de prendre en compte, mais
il prend la réalisation. Le cabinet est en train de noter certaines propositions.
Il représente le gouvernement. Il prend en compte.
Merci beaucoup. On évolue et c'est la fin de ce débat. Vous avez quelques secondes pour clôturer. C'est vrai que vous tenez coûte que nous ouvrons les classes d'ici le 29 juillet pour la zone B.
Oui, les écoles s'ouvriront, comme le gouvernement l'a dit, le 29 juillet.
Merci.
C'est-à-dire le mercredi.
Seconde.
Il faut que les parents soient rassurés des dispositions que le gouvernement, au travers du comité technique, sont en train de prendre pour la protection de la population.
Mais ils ne le sont pas.
Et ensuite, il faut se dire que les enfants ne sont pas forcément mieux protégés en dehors de l'espace scolaire. Ils ne sont pas forcément mieux protégés. Je réaffirme que la réouverture des écoles est un support de communication, de sensibilisation et de protection.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce débat Patara. Nous l'avions consacré aujourd'hui sur la reprise des cours dans la zone pédagogique A déjà et la zone pédagogique B d'ici le 29 juillet. Nous avions invité autour de ce plateau Dr Ernest Mada, directeur de cabinet au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Merci d'être venu. Merci monsieur.
C'est moi qui vous remercie.
Nous avons aussi invité monsieur Fari Tahirou Kachabaz. Vous êtes porte-parole du chemin de l'espérance, parti politique de l'opposition. Monsieur, merci à vous aussi.
Merci à vous, merci aux auditeurs de Nekeluka.
Merci. Nous avons invité également monsieur Alain Loumandé. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de Centrafrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Et nous avons aussi invité monsieur Zenet Ndewa. Vous êtes secrétaire général du groupement des établissements d'enseignement privé Centrafrique. Monsieur, merci à vous.
Merci à tous les auditeurs.
Monsieur Paul Christian Beninga, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Et c'est la fin de ce débat Patara. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.